France de presse, celle des questions et réponses. Mettez vos téléphones sous silencieux ou éteignez-les carrément. Donc, Goma, nous restons là-bas pour prendre deux questions. Vous avez le micro, vous le conservez.
Commençons à droite.
Darren Maurice, Canal Sitkin TV. J'ai une question sécuritaire. Mon major, est capitaine. Selon des sources concordantes, rapporte que hier, une unité des FARDC a été attaquée à Beni. Avez-vous une information ou vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette attaque?
Oui, effectivement, le 22 novembre, aux alentours de 12 heures, des cadres suspectés appartenir aux ZDF ont mis en embuscade un groupe des FARDC composé de 40 militaires, 30 militaires d'infanterie et 10 militaires de commando qui s'est déplacé du camp Garlic à Nadoui. Le nombre des cadres est inconnu pour le moment, mais on rapporte que deux FARDC ont été blessés, mais des blessures mineures. On a aussi trouvé beaucoup de traces de sang sur les lieux. Ça veut dire que les éléments de l'ADF ont subi beaucoup de pertes. En plus, les FARDC ont récupéré un fil détonateur de bombes artisanales. Le commandant second de l'opération Sokola 1 suggère que l'attaque a été effectuée par le même groupe du suspect 4 ADF qui ont attaqué les FARDC le 21 novembre entre Mapiki et Mbanga. Le commandant FIB a obtenu cette information et les FARDC ont demandé l'aide de la MONUSCO pour la numérisation aérienne de la zone générale de Mapobo, Cécile, jusqu'à le camp Ospice 2. Merci beaucoup.
Oui, merci. Nous restons donc à Goma pour une deuxième question.
Mireille Massika pour le compte de l'RTNC Nord-Kiv. Mon capitaine, pouvez-vous nous donner plus de précisions sur l'incident qui s'est produit le lundi 21 novembre dans le secteur Tanganyika et qu'est-ce qui était à la base de cet incident?
Oui, merci pour la question. Alors en effet, ce n'est pas un incident isolé parce que avant ça, et plus précisément le 15 novembre, certains éléments d'autodéfense appartenant à la faction Louba ont arrêté et menacé avec des machettes une équipe Milo qui était sur le point d'entrer Kalimi au cours d'une patrouille de routine. La patrouille a été stoppée par environ 10 éléments démontrant leur affiliation à la faction Louba. Ils ont demandé une somme d'argent comme contribution à soutenir leur travail. Plus tard, certains d'entre eux criaient en accusant la MONUSCO de soutenir les pygmies en leur fournissant des flèches. L'équipe a été autorisée de continuer sa patrouille en toute sécurité. Alors, le 21 novembre cette fois, un convoi de la MONUSCO et du HCR, escorté et sécurisé par le bataillon béninois, a été bloqué par les milices Louba et les habitants de Niemba, 80 km à l'ouest de Kalimé. Les éléments Louba ont entouré le convoi et ont visé les passagers avec des flèches empoisonnées. Ce qui a causé la blessure de deux soldats de la MONUSCO. L'équipe de la mission conjointe a été forcée de retourner à Kalimé. Par la suite, une équipe de FARDC a été dépêchée par les autorités congolaises pour négocier avec les miliciens Louba, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Les deux casques bleus ont reçu des soins médicaux à Kalimé et par la même occasion, je les souhaite un bon rétablissement. Merci.
Oui, merci donc pour toutes ces précisions. Retour ici à Kinshasa pour prendre deux questions, une à droite, une à gauche. Nous commençons ici par une dame. Donnez le micro au fond.
Merci pour la question. C'est Sylvie Fortuné Boula d'Antena. Monsieur Bass, la MONUSCO a toujours apporté ses bons offices au gouvernement RD congolais. C'est depuis la semaine dernière qu'un premier ministre a été nommé par le président de la République en la personne de Monsieur Sami Badibanga. Malgré cette nomination, le Rassemblement et d'autres partis de l'opposition ne veulent toujours pas adhérer aux résolutions de l'accord signé dernièrement à la Cité de l'Union africaine. La MONUSCO à ces niveaux, parce qu'il faut dire que le gouvernement de transition sera peut-être disponible d'ici là, qu'est-ce que la MONUSCO peut faire à ces niveaux pour rassembler les vues des uns et des autres? Merci.
Oui, merci madame pour votre question qui est très pertinente et qui est d'ailleurs d'actualité. Ce que nous pouvons vous dire sur cela, c'est que d'abord nous prenons acte de la nomination de Monsieur Sami Badibanga au poste de Premier ministre, ce qui traduit en termes concrets que déjà des pas significatifs sont en train d'être pris dans la mise en œuvre de l'accord qui a été signé le 18 à la Cité de l'Union africaine sous la facilitation de Monsieur Edem Kudjo. Cette mesure est saluée, bien sûr, et nous pensons tout simplement que la suite, c'est, comme vous l'avez indiqué vous-même, c'est la formation d'un gouvernement, et je pense que aujourd'hui, il y a une forme de bouillonnement au niveau de l'espace politique pour la formation de ce gouvernement. Mais nous pensons aussi que le Premier ministre aujourd'hui qui a été mis en place mettra tout en œuvre pour créer un climat propice, un climat apaisé pour la suite des activités ou en tout cas de l'agenda qui a été décliné dans cet accord afin que le débat politique puisse être initié, que l'espace politique puisse être créé et que les libertés fondamentales soient respectées. Au niveau de la MONUSCO, nous poursuivons toujours les bons offices, les contacts, et nous sommes là en soutien aussi à la CENCO. Nous saluons d'abord tous les efforts qui sont pris par la CENCO parce qu'il s'agit d'un processus qui n'est pas arrivé en terme. Donc, pour qu'on puisse amener tout le monde dans le convoi qui est déjà initié, je pense que ces contacts sont utiles et la CENCO est sur le front pour ramener tout le monde autour de la table et que les divergences puissent être aplanies et qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus concret, ça veut dire l'organisation future des élections paisibles, crédibles et transparentes. Merci. Donc nous prenons une deuxième question ici à Kinshasa. Oui, passez le micro à droite.
Merci bien, Monsieur Félix Bass. Ma question, c'est par rapport au récent communiqué du gouvernement américain des États-Unis qui exhorte et le rassemblement des forces politiques acquises au changement et la majorité présidentielle à privilégier encore une fois la voie du dialogue pour sauver le pays à l'approche du 19 décembre. Et je ne sais pas comment la MONUSCO réagit-elle à cette demande. Théodore Gandou pour le compte de Télé7.
Oui, merci Théodore pour votre question. Donc, oui, nous avons pris aussi connaissance des déclarations faites par une autorité américaine relative justement à la création d'un espace politique, mais aussi relative à la poursuite des échanges qui sont déjà initiés entre tous les acteurs politiques pour mettre en place un environnement qui permette à tout le monde de s'exprimer. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire par rapport à cela, mais ce que je peux dire, c'est que cette déclaration marque un intérêt certain de tout le monde par rapport à la situation politique qui prévaut aujourd'hui en RDC. Il ne s'agit pas simplement de cette autorité américaine. Je pense que tous les partenaires et amis de la RDC se sont déjà exprimés là-dessus. Notamment, nous avons eu aussi la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a de cela à peu près une dizaine de jours, où les mêmes mots, les mêmes idéaux ont été formulés, renforcés, martelés. Ça veut dire que les acteurs politiques congolais doivent tous se mettre autour d'une table et taire les dissensions, aller vers l'essentiel. Donc voilà ce que je peux dire de manière très globale par rapport à la déclaration de cette autorité américaine. C'est ce que tout le monde dit. Maman Sambou Sidikou, l'Union africaine, la SADC, la CIGLR. Récemment, nous avons eu encore une délégation, la visite du ministre angolais qui a répété la même chose et a demandé à tous les acteurs de pouvoir s'asseoir et de créer les conditions normale pour la tenue d'élections futures paisibles, transparentes et qui soient le plus inclusives possible. Merci donc. Je repars à Goma pour prendre deux autres questions. Goma.
Je suis Guilain Chimeshula de la radio-télévision Graben Beni à Goma. Ma question est la suivante. Chaque fois, vous rappelez la mission de la MONUSCO en RDC. Mais par rapport aux tueries dans les groupements d'Ihana, nous sommes dans les territoires de Walikale. Toujours, nous sommes en train de voir les NDC Guido et NDC de Tchéka qui continuent toujours à faire de massacres aux civils dans ces contrées. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces tueries et par rapport à ce déplacement de la population jour et jour dans ces territoires?
Oui, mon capitaine, vous prenez cette question ou je la prends?
Non, je vous laisse ça, monsieur Basse.
Oui, merci. Donc, vous avez parfaitement raison d'indiquer l'insécurité qui est créée dans le territoire de Masisi par le NDC Tcheka, mais aussi par le NDC Rénové, qui est une faction dissidente de NDC Tcheka sous le commandement de Guidon, qui était l'adjoint de Tcheka en son temps. Avant justement qu'il y ait ces scissions au sein de Tcheka, au sein de cette coalition, nous avions à l'époque avec les FRDC mis en place des mécanismes qui nous avaient permis, figurez-vous, de nettoyer l'axe qui allait de Kachébéré Mpofi et qui allait jusqu'à Walikale, et on avait réussi à dégager de cet axe-là NDC Guidon, mais aussi l'Alliance pour un Congo libre et souverain de Janvier Kariri qui avait été dégagé. Nous avions même à l'époque déployé une base opérationnelle à Pinga où nous avions des casques bleus uruguayens et sud-africains qui étaient en train d'opérer dans cette zone-là. Et vous vous rappelez aussi que nous avions engagé nos hélicoptères d'attaque dans cette zone-là pour justement mettre en terme aux exactions qui étaient perpétrées contre les populations civiles par ces deux factions rivales qui sèment l'insécurité. Aujourd'hui, les FRDC se sont déployés aussi dans cette zone-là, dans le cadre de Sokola 2, et je pense que avec les efforts de la MONUSCO combinés à ceux des FRDC, des actions sont en train d'être menées, des actions significatives. Certes, il réside encore des poches, ça et là, d'insécurité, mais tout le monde travaille à pouvoir résoudre ce problème à cet effet. D'ailleurs, nous interpellons aussi les populations congolaises, parce que sans elles, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de leur appui, qu'elles puissent se dissocier de ces groupes armés, parce que n'oubliez pas que des complicités internes aussi existent, ce qui nous complique la vie. Donc, merci. Nous prenons donc une deuxième question là-bas à Goma, avant de revenir sur Kinshasa.
Oui, moi c'est Jérémy de la radio Taïna Goma, Jérémy Kiambo. Alors ma question, j'ai vu le responsable de la police MONUSCO à Kinshasa. Ma question c'est par rapport au numéro vert que cette mission des Nations Unies a octroyé, a donné à la police nationale congolaise. Je voulais savoir la durée des garanties que la MONUSCO a donné. Donc ça va de quelle date à quelle période, parce que nous savons parfois ce sont des projets qui sont éphémères, et parce que à ma connaissance c'est qu'il y aura de l'argent qui sera déboursé pour acheter des crédits là-dedans. Alors cette garantie va de quand jusqu'à quand? Et le deuxième volet de la question est de savoir pourquoi seulement deux numéros pour une ville où il y a toujours de cas de sécurité tout le temps. Je sais que les numéros peuvent être abondés. Tout le monde devait appeler à tout moment. Merci.
Oui, merci. Avant de passer la question au chargé de communication de la police nationale congolaise, permettez que je vous dise que je désapprouve carrément votre assertion disant que ce sont des mécanismes qui sont mis en place et qui sont tout à fait éphémères. Je ne suis pas d'accord avec vous et je vais vous dire pourquoi. La première raison, c'est que c'est vrai, la MONUSCO a pris beaucoup d'initiatives. La MONUSCO peut même être considérée comme un laboratoire au sein duquel beaucoup de nouvelles approches, beaucoup de mécanismes nouveaux ont été mis en place, ont été mis en œuvre et qui fonctionnent parfaitement. Je vous donnerai à titre d'exemple ce qu'on appelle le Community Alert Network, qui n'est rien d'autre qu'un réseau communautaire d'alerte précoce, mais aussi nous avons mis en place le CLA, qui est le Community Liaison Assistant, qui n'est rien d'autre qu'un relais aussi qui permettent aux différentes forces de défense et de sécurité congolaises et MONUSCO, parce que nous partageons l'information avec eux à partir de ces mécanismes. Donc je pense qu'il faut se féliciter d'une chose, de cette nouvelle initiative. Nous avions dit au cours des différentes conférences de presse ici que, compte tenu de ce que nous avions vécu les 19, 20 et 21 septembre ici à Kinshasa, que la force de la MONUSCO était résolument engagée avec les forces de défense et de sécurité congolaises à mettre en place de nouveaux mécanismes qui permettent une meilleure protection des populations civiles. Oui, il y a eu des patrouilles. Oui, il y a eu des renforcements de moyens ici à Kinshasa. Oui, il y a un centre de tactique opérationnelle qui est mis en œuvre. Oui, maintenant, en plus de tout cela, nous avons initié ce numéro vert. Je laisse le soin au porte-parole de la police, au chargé de communication, Monsieur Diop, qui va quand même nous faire le point de ce nouveau mécanisme mis en œuvre par la police.
Merci beaucoup, Monsieur Félix Bass. Chers confrères, comme l'a dit tout de suite le porte-parole, il faudrait éviter de faire des affirmations gratuites, surtout quand on est journaliste. Recouper l'information. Ce que nous sommes en train de faire à Goma, nous l'avons initié d'abord à Beni. On a obtenu des résultats probants, ce qui nous a fait faire une duplication. Ce n'est pas simplement Goma. Aujourd'hui, nous sommes à Ouvira, nous sommes en train de lancer ça à Bounia. Nous l'avons aussi élargi à Oisha. Tout simplement parce que nous avons vu qu'avec ces numéros verts, les populations pouvaient nous contacter plus facilement et il y a des équipes qui sont prêtes à intervenir à tout moment. C'est des dizaines de personnes qui ont été interpellées à Beni depuis qu'on a installé cela et ça date de plus de 2 ans. Donc, quand vous parlez d'éphémère, ça me pose problème. Nous sommes en train de le faire dans d'autres villes et certainement toute la RDC pourra voir les jours à venir des numéros verts qui permettront aux policiers de pouvoir intervenir quand les populations les appelleront.
Oui, merci pour ces éclairages. Donc, retour ici à Kinshasa pour prendre 2 questions. Oui, Symphorien, à tout honneur, tout seigneur, tout honneur. Ensuite, je prendrai une dame.
Oui, merci pour la parole, Symphorien Katumba, pour le compte de l'explorateur. Une préoccupation, une intention, porte-parole, Félix Bass. Le 19 novembre 2016, le rassemblement a été étouffé par la police nationale. De pouvoir tenir le meeting et se prouver dans la constitution de l'ACDC. La MONUSCO, ayant été sur le terrain, a pu faire quel constat concernant la dite journée? En outre, la population congolaise doit compter pour sa bonne foi, moyennant son mandat en ECDC. Je vous remercie.
Oui, vous voyez, reformuler votre question, la dernière partie, parce que je ne la comprends pas bien.
Je disais, la population congolaise doit faire confiance à la MONUSCO, moyennant son mandat en ECDC. Il y a eu un meeting, le rassemblement a été étouffé par la police, vous avez été sur le terrain, quel constat avez-vous fait? Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que vous donnez aussi comme solution? Qu'est-ce que vous parlez à la population congolaise d'avoir confiance à tout ce que vous faites sur le terrain concernant le meeting a été fait par le rassemblement?
Oui, merci. Permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas la relation entre le meeting et la MONUSCO. Je pense que d'abord, il faut revenir dans le contexte des choses. Depuis un certain temps, les autorités gouvernementales, les autorités de la province de la ville, province de Kinshasa, ont pris des mesures concernant l'interdiction formelle de tout rassemblement, de tout meeting, de tout regroupement ici à Kinshasa pour des raisons de sécurité. Je pense aussi que nous devons tenir compte du respect des lois de la République et des autorités qui donnent ces ordres-là pour que, en fait, la paix puisse s'établir. Nous ne portons pas de jugement réellement sur cette annulation ou en tout cas le fait que ce meeting n'ait pas eu lieu. Je pense que ça a été explicité par ceux qui ont organisé ce meeting et aussi par les éléments de la police nationale congolaise pour dire pourquoi est-ce que ce meeting n'avait pas été autorisé. Au niveau de la MONUSCO, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, nous continuons à faire le plaidoyer, comme tout le temps, le plaidoyer de pouvoir élargir l'espace politique, le plaidoyer de pouvoir favoriser l'expression de toutes les sensibilités, aussi la liberté de la presse, les libertés fondamentales qui sont inscrites dans la Constitution. Nous continuerons à faire ce plaidoyer, nous continuerons à engager, à discuter avec les autorités pour trouver des voies et moyens pour le permettre. Mais vous savez, la sécurité aussi est primordiale et je pense que les raisons qui ont été invoquées, sans pour autant que je n'entre dans leur justification ou en tout cas les balayer d'un revers de la main, je pense que ces justifications sont là et voilà ce que... Mais la MONUSCO, nous avons déployé, nous avions déjà intégré cette donne depuis très longtemps, déjà le 4 novembre pour le meeting du 5 novembre, le représentant spécial avait appelé au calme, avait appelé tous les organisateurs mais aussi les forces de défense et de sécurité congolaises. à respecter certains principes, à respecter la vie humaine. Donc nous avons aussi nos éléments des droits de l'homme qui étaient sur le terrain pour faire le monitoring, mais je pense tout simplement que ce qui nous concerne, c'est continuer à faire le plaidoyer pour que les libertés individuelles, les libertés fondamentales soient respectées. Donc je prends une deuxième question. Oui, passez le micro à RFI.
Sonia Rollet, RFI, je reviens sur le Tanganyika. On parle de plus en plus d'un groupe de 2000 à 3000 hommes, mais il y aurait aussi des femmes et des enfants, qui seraient vers Kasanga, et qui seraient de l'ethnie Luba, et qui seraient considérés par les populations locales autour, et notamment par la communauté pygmée, comme une milice en gestation d'où pourraient provenir les attaques. Est-ce que vous avez des informations sur la présence de ce groupe? Est-ce que c'est un groupe de déplacés avec des groupes d'autodéfense? Est-ce que c'est vraiment une milice en tant que telle?
Oui, merci. Je me rends compte que cette question a plusieurs volets. Au niveau de la MONUSCO, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore pris connaissance de l'existence ou de l'apparition d'un nouveau groupe dans cette localité. Il faudra comprendre un peu aussi le problème entre les Luba et les Twa dans la province du Tanganyika, l'ancien Katanga. C'est un vieux problème, certes. Mais pour mieux comprendre cette situation, je pense qu'il faut revenir à l'organisation de ces deux groupes. Premièrement, les Luba sont organisés en milice. La milice s'est fait appeler les éléments. Et donc nous avons ici peut-être une unicité de commandement dans la mesure où ce sont les Luba qui se sont réunis autour d'une milice d'autoprotection ou de défense, ce qui n'est pas le cas du côté des Twa. Les Twa sont beaucoup plus dispersés et on n'est jamais sûr, parce que si vous regardez bien la suite des événements, nous avions eu des attaques qui partaient du sud vers le nord. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a un système de balancier parce que les gens reviennent du nord vers le sud. Nous avions à l'époque un triangle qui était assez particulier, Mitouaba, Manono et Pueto. Aujourd'hui, nous revenons un peu vers le Nyuzu où nous avons observé toutes ces différentes exactions. Mais une chose est sûre, c'est que la situation au Tanganyika est plus que préoccupante. Elle est préoccupante parce que c'est un problème ethnique, donc beaucoup plus difficile à déraciner. Mais il faut saluer aussi tous les efforts qui sont faits par les autorités provinciales, les autorités locales, les autorités coutumières et religieuses, mais aussi la MONUSCO pour sensibiliser, pour mener des actions qui permettent une coexistence pacifique entre ces deux communautés qui depuis fort longtemps se font la guerre. Ce matin encore, nous avons reçu une information concernant une attaque lancée par les Pygmées. Et suite à laquelle nous avons enregistré une trentaine de tués. Donc je pense que l'implication de tous est requise pour taire cette violence-là qui enflamme aujourd'hui le Tanganyika. Et on observe quoi? Des actions, des contractions. Donc c'est toujours dans cette dynamique-là qu'il faudra peut-être s'inscrire et mettre un terme à cela. Donc malheureusement, je ne peux pas vous donner cette information, mais je la chercherai pour savoir s'il y a effectivement un nouveau groupe en gestation dans cette région. Merci. Donc je repars. Donc je prends une deuxième question. Oui, ici. Oui, une deuxième question à Kinshasa avant d'aller à Goma.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour la Côte des Planètes Vision. Monsieur le porte-parole, je reviens sur l'attaque des convois de la MONUSCO. Sur le plan politique, cette attaque vous interpelle quoi, la MONUSCO, vis-à-vis de la population? Merci.
Oui, merci. Je ne pense pas que cette attaque ait une quelconque connotation politique. Je pense que le porte-parole militaire a décrit dans les détails les circonstances dans lesquelles cette attaque a été perpétrée contre des éléments du casque bleu qui escortaient tout simplement une équipe pluridisciplinaire de la MONUSCO qui se rendait dans cette localité-là, dans cette région, afin de mener des actions qui puissent apaiser les tensions, qui puissent réconcilier les populations. Donc la connotation politique n'est pas là. Mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que Il est d'abord injuste de penser que la MONUSCO soutient une communauté au profit de l'autre, donc à savoir les toits, les pygmées, pour ne pas être péjoratif. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous nous engageons avec les autorités locales, provinciales, que nous soutenons dans leurs efforts de pacification. Et troisièmement, je veux tout simplement vous dire que cette attaque n'est pas en tout cas dissuasive quant à l'engagement de la force de la MONUSCO pour apaiser ou en tout cas apporter sa contribution dans la résolution de ce conflit interethnique qui perdure. Donc voilà de manière très globale ce que nous pouvons dire. Nous souhaitons évidemment un propre rétablissement à tous ces casques bleus qui ont été blessés en rappelant que toute attaque contre un casque bleu constitue une violation grave, un crime de guerre, et que les poursuites suite aux enquêtes vont être initiées avec le soutien des forces, avec le soutien des autorités provinciales et locales de la RDC, pour que la lumière soit faite sur cette attaque-là qui ne restera pas impunie. Donc je repars à Goma pour prendre une question à Goma, parce que nous arrivons presque au terme de cette conférence de presse. Une question à Goma.
Allez-y. Merci. C'est Serge Ngourou de Emmanuel TV. La première question, je la pose au capitaine.
Une seule question, s'il vous plaît. Une seule question, s'il vous plaît.
Merci. Je veux savoir, après que les ADF ont relâché et relâcher ces captifs. Avez-vous maintenant des renseignements sur leur base effective dans ce que vous avez appelé jungle?
Oui, mon capitaine.
Merci. Tout ce que je peux dire. Oui, merci. Que les éléments de l'ADF sont en déplacement constant. Ça veut dire, on ne peut pas dire qu'ils ont des camps fixes. La jungle est grande, ils peuvent se déplacer pendant le jour comme pendant la nuit. Alors, on localise certains de ces bases ou bien de ces camps, mais comme on a dit précédemment, qu'il adapte un fonctionnement ou bien de combat qui n'est pas régulier, qui se va de la guérilla. Merci beaucoup.
Oui, merci. Donc, juste pour renforcer ce que le capitaine a dit, comprenez que le mode opératoire des ADF est un mode opératoire lié à la guérilla. Ils ont un type de combat qui est tout à fait asymétrique, auquel nous nous adaptons et face auquel aussi nous avons mis en place des mécanismes avec les FRDC pour les contrer. C'est justement ces mécanismes mis en place qui sont en train de payer. Ne pensez pas que les ADF ont tout simplement libéré ces gens-là parce qu'ils le voulaient. C'est suite à la pression militaire exercée par les FRDC avec le soutien de la MONUSCO que les otages ont pu s'enfuir, parce que ces gens, après avoir mené une première attaque sur l'axe Beni-Kassindi, ont été pris à partie par les FRDC qui ont mener la pression, et c'est au niveau où ils ont eu un deuxième accrochage qu'ils ont pu libérer, en fait pas libérer, les otages ont pu saisir cette opportunité pour s'échapper. Radio Okapi.